Nous écoutons la suite du vaste et minutieux travail que Gilles Weinstein a entrepris au Collège de France depuis plusieurs années sur les relations entre l'Empire ottoman et l'Europe. Les cours que nous écoutons actuellement portent sur les conceptions, organes et procédures de la diplomatie ottomane en Europe entre le XVe et le XVIIIe siècle. Gilles Weinstein permet de nous rendre compte que les relations entre les Ottomans et les pays d'Europe étaient bien plus fréquentes qu'on pouvait imaginer. Nous avons également appris que les ambassadeurs ottomans étaient certes en grande majorité musulmans, mais que le sultan envoyait à l'occasion des émissaires chrétiens et des juifs quand les circonstances l'exigeaient. Ce cours éclaire notre histoire et la place sous un jour bien différent des clichés que nous plaquons habituellement sur ces questions. De quoi était fait concrètement cet espace diplomatique entre les Turcs et les infidèles? Qui étaient les diplomates? Comment les échanges diplomatiques fonctionnaient-ils concrètement? Telles sont les questions en présence.
Nous avons pu déterminer, dans la caractérisation des ambassades ottomanes en Europe, une première période qui va des premiers contacts entre l'Empire ottoman et les États européens chrétiens au XIVe siècle jusqu'au cours du XVIIe siècle. Une sorte de routine s'établit. Les ambassades sont fréquentes, elles accompagnent les grands événements de la vie politique européenne, avènement et couronnement de nouveaux souverains, négociations préliminaires et conclusion de paix ou de traité de type capitulation. Mais aussi, comme nous y avons insisté, parce que cette curiosité appelait, me semble-t-il, quelques précisions et commentaires, circoncision des fils des sultans. Toutes ces ambassades correspondent en gros à un même modèle que trois formules me paraissent propres à définir. Ce sont des ambassades ad hoc, c'est-à-dire expédiées en vue d'un objet particulier, des ambassades purement fonctionnelles et sans apparat. Les ambassadeurs n'ont pas besoin de se distinguer les uns des autres par le rang ou par le poids personnel. Tous sont pris parmi les différents corps du palais qui nous sont devenus familiers, les tchaouches, les kapoudjeux, les tchachnigirs et un corps qui est sans doute le plus prestigieux des corps du palais, les mutéferikas. Les interprètes et même l'interprète en chef du sultan, le terjuman Bacheux, participent également, on recourt à eux à l'occasion, notamment quand l'objet de la mission comporte de véritables négociations. Et ces personnages, eux aussi, ne sont pas d'un rang très élevé. Ils sont d'ailleurs fréquemment rattachés à des corps du palais ou à des corps militaires analogues. Seul compte, en réalité, le fait que tous ces envoyés viennent de la part du sultan, ou, pour essayer d'épouser de plus près la vision ottomane des choses, seul compte le fait qu'ils soient porteurs d'une lettre de leur maître, une lettre marquée du monogramme du sultan régnant, ou, pour citer la rhétorique de la chancellerie d'Istanbul, une lettre qui soit marquée du signe sacré de la Torah resplendissante, conquérante du monde et impériale. Dès lors, peu importe qu'ils appartiennent à des corps relativement subalternes, qu'ils n'aient pas préalablement occupé des fonctions en vue dans les hautes sphères de l'État, qu'il n'ait même pas en général, le titre et le rang d'ambassadeur au plein sens du terme, ce qu'exprime le terme turc d'elchi ou le terme d'origine arabe de saphir. Les États qui ont le redoutable privilège d'avoir des frontières communes avec le sultan, Venise, les Habsbourg, la Pologne, ne s'y trompent pas. Ils réservent à ces agents sans éclat, accompagnés tout au plus d'une courte escorte, les égards et les honneurs accordés aux ambassades des souverains chrétiens les plus fastueuses, conscients qu'ils sont du risque qu'il y aurait à mécontenter le grand seigneur, fût-ce à travers le plus modeste de ses représentants. Le roi de France, aussi, nous l'avons vu, est arrivé à la conclusion que le rang de l'ambassadeur comptait moins que les notions flatteuses sur le royaume qu'il était susceptible de rapporter à son maître. Dans ces conditions, il apparaît que la diplomatie ottomane n'a pas suivi, en ce qui concerne la nature des ambassades, l'évolution très marquée de la diplomatie européenne dans la même période. Non seulement, comme on ne manque pas de le relever toujours, les Ottomans n'ont pas envoyé des ambassadeurs permanents dans les capitales européennes. Mais ils n'ont pas non plus, pour ce qui concerne les ambassades extraordinaires auxquelles ils ont continué à se limiter, adopté la rigoureuse hiérarchie des ambassadeurs et des ambassades qui s'est développée dans le reste de l'Europe. D'une manière générale, les envoyés ottomans ne semblent pas non plus, pour autant que les rares indices disponibles nous permettent d'en juger, s'être coulés en général dans le moule du parfait diplomate qui prend forme alors, marqué par une apparence, un comportement, une psychologie particulière, tels que les définissent les nombreux traités sur le sujet qui fleurissent au XVIe et XVIIe siècle dans l'Europe chrétienne. Le plus fameux de ces traités est sans doute celui de Juan Antonio de Vera y Figueroa, du comte de la Roca, dont une traduction française est parue en 1635 sous le titre « Le parfait ambassadeur ». Ce traité définit les qualités et les vertus propres du bon ambassadeur. Loyauté, fidélité à son prince, bravoure et courage, ponctualité, modération, prudence, distinction sociale, beauté. L'auteur insiste, il faut que l'ambassadeur soit beau et élégant. Et d'autre part, il doit savoir mentir. Les changements auxquels on assiste, au contraire, au cours du XVIIe siècle, dans la conception ottomane des ambassades en Europe, attestent bien rétrospectivement combien le conservatisme préalable des Ottomans avait été fonction de leur sentiment de supériorité. La simplicité relative des ambassades ottomanes était allée de pair avec la suprématie effective du sultan ottoman. Quand au contraire, la position relative des Ottomans en Europe commence à s'affaiblir au XVIIe siècle, on voit le sultan épouser davantage les canons européens en matière d'ambassade et rechercher davantage la pompe et l'éclat dans celle qu'il met désormais sur pied. Pompe des ambassades et puissance effective évoluent ainsi en sens diamétralement opposé. Les Ottomans continuent, je l'ai dit, au cours du XVIIe siècle, à se limiter à des ambassades extraordinaires, des ambassades ad hoc, mais celles-ci deviennent beaucoup plus étoffées avec des suites de plus en plus nombreuses et même spectaculaires. On choisit désormais comme ambassadeurs des personnages plus considérables, appartenant aux plus hauts échelons d'une administration qui, elle-même, s'étoffe et se structure dans la même période. Et ces personnages sont ostensiblement promus parés de titres honorifiques éminents à l'occasion de leur désignation comme ambassadeurs. Apparaît ainsi, désormais, une hiérarchie entre les ambassadeurs ottomans, où l'on distingue deux degrés, les ambassadeurs qu'on peut dire moyens, Orta Elchi, auxquels on donne, à l'occasion de leur ambassade, des titres qui correspondaient antérieurement à des fonctions, mais qui sont désormais des titres honorifiques, les titres de Defterdar, c'est-à-dire littéralement de contrôleur des finances, ou de Nishanje, c'est-à-dire de chancelier. Mais il s'agit désormais de titres honorifiques. Et puis, rang suprême, il y a les grands ambassadeurs, les Büyük Elçi, que l'on part du titre de Rumeli ou bien Anadolu Beylerbeyi, c'est-à-dire de gouverneur des provinces européennes ou des provinces asiatiques de l'Empire ottoman. Là encore, ces expressions désignaient jusque-là des fonctions et continuent d'ailleurs à désigner ces fonctions, mais elles correspondent également désormais à des titres honorifiques. Un Beylerbey de Roumélie ou d'Anatolie est également considéré comme un pacha. La première de ces ambassades d'un nouveau type, si je peux dire, plus spectaculaire, plus pompeuse, me semble être celle envoyée à Vienne à la suite du traité de Vasvar, ou en allemand Eisenburg, en 1664. Un traité qui a été négocié du côté ottoman par le grand vizir Köprülü Fazıl Ahmet Pacha et du côté autrichien par Simon Reninger. La situation est paradoxale à l'occasion de ce traité, parce que les Ottomans viennent de subir une grave défaite, la fameuse bataille de Saint-Gothard, où ils ont été battus par les Autrichiens, renforcés d'ailleurs par un contingent français envoyé par Louis XIV. Mais comme la situation est très troublé dans la partie de la Hongrie que contrôlent les Habsbourg, l'empereur Léopold Ier se hâte de traiter avec les Turcs et accepte de traiter à des conditions très dures, puisque, au terme du traité, il devra payer une indemnité de 200 000 pièces d'or au titre des dommages de guerre, indemnité que les Ottomans considèrent, selon la tradition, comme un tribut que leur accorde l'empereur, alors que depuis le traité de Sigvatorok de 1606, les Habsbourg ne payaient plus de tribut aux Ottomans. Les Ottomans considèrent donc ces 200 000 pièces d'or comme un tribut, tandis que du côté de l'empereur, on veut y voir, selon la formule diplomatique employée à cette occasion, un témoignage spontané d'amitié. Et à cela s'ajoutent quelques abandons territoriaux consentis par les Habsbourg en Hongrie. L'article 10 de ce traité prévoit de marquer la paix obtenue entre les deux empires par un échange d'ambassadeurs extraordinaires. L'ambassadeur autrichien apportera au sultan, Mehmed IV, le cadeau spontané de 200 000 pièces d'or. Tandis que du côté ottoman, le grand vizir choisit comme ambassadeur, pour aller donc à Vienne, un personnage qui est l'un de ses favoris et qui est également un favori du sultan Mehmed IV, c'est-à-dire un ambassadeur qui a été choisi intuitu personae et dont le nom est Kara Mehmed. Ce Kara Mehmed avait été un officier d'un des corps du palais que nous n'avons peut-être pas encore eu l'occasion de citer, le corps des Bostanges, c'est-à-dire des jardiniers, puis il était entré dans le corps des Muteferika. Ce sera d'ailleurs, 5 ans plus tard, le cas également de Suleyman Aha, envoyé auprès de Louis XIV, dont j'ai eu l'occasion de parler, et qui était également un Muteferika. Mais dans le cas de ce Kara Mehmed, conformément aux nouveaux usages que je vous avais annoncés, à l'occasion de son ambassade, il est nommé Beyler Bey de Roumélie. Il reçoit le titre de Pacha, c'est-à-dire que c'est un Büyükelçi, un grand ambassadeur. En outre, et c'est aussi une nouveauté, il va apporter à l'empereur des cadeaux particulièrement précieux, beaucoup plus précieux que ce que les ambassadeurs ottomans apportaient antérieurement. Alors on mentionne parmi ces cadeaux magnifiques une aigrette sertie d'un grand nombre de diamants, une tente de cérémonie somptueuse, 20 tapis de prière, 5 tapis persans de la plus grande finesse, de la mousseline, de quoi faire 100 turbans, 40 caftans de cérémonie, une hoque, c'est-à-dire un poids d'1,28 kg d'ambre, 2 chevaux arabes avec tout le harnachement de parade et 8 chevaux pour tirer des carrosses. Donc, un ensemble de cadeaux fastueux. Ce Kara Mehmed a une double mission. Il doit d'abord apporter à l'empereur le traité qui a été ratifié par le sultan et d'autre part, mais alors là, on reste dans une tradition beaucoup plus ancienne, il doit mettre à profit son séjour à Vienne pour recueillir le plus d'informations qu'il pourra sur les dispositifs militaires de la ville et de ses environs, sur les fortifications du palais impérial. Donc, cette tradition, sur laquelle j'avais déjà insisté, de la seconde finalité de toutes ces ambassades, c'est-à-dire le renseignement, cette tradition est maintenue. Kara Mehmed est accompagné d'une suite nombreuse, d'une suite sans commune mesure avec ce qu'avaient été les suites des ambassadeurs ottomans antérieurs. Les sources varient d'ailleurs sur le nombre de membres de cette suite, mais il faut dire que Kara Mehmed restera pendant 9 mois à Vienne et tous les éléments de la suite ne sont pas restés auprès de lui pendant toute cette durée, ce qui peut expliquer les variations qu'on constate entre les sources. Les archives de Vienne, en effet, conservent des listes énumérant la suite de l'ambassadeur Kara Mehmed, en indiquant d'ailleurs pour un grand nombre des membres de cette suite quelle était la fonction qui leur était officiellement attribuée. Au maximum, il y avait 300 personnes et 269 chevaux. Et les sources autrichiennes parlent à propos de cette ambassade de manière significative de la grande ambassade de Kara Mehmed, grande par rapport à toutes celles qui avaient précédé. Et cette ambassade sera d'ailleurs une dépense considérable pour le trésor de l'empereur Léopold parce qu'il a pratiqué la symétrique de ce que les Ottomans faisaient pour les ambassadeurs autrichiens, c'est-à-dire qu'il a défrayé l'ambassadeur et sa grande suite pendant tout leur séjour à Vienne. On sait ainsi, à Vienne et en territoire habsbourgeois plus généralement, on sait ainsi que chaque jour, on livrait à l'ambassade 15 moutons et 10 agneaux, de même qu'une tonne 800 d'orge, du bois de chauffage, du fourrage en quantité suffisante et également un forfait quotidien de 150 piastres pour subvenir aux dépenses de l'ambassade. Nous connaissons assez bien cette ambassade, du moins dans ses aspects protocolaires, non seulement par les sources viennoises auxquelles je viens de faire allusion, mais aussi parce que l'ambassadeur Kara Mehmed a rédigé une relation de son ambassade. C'est un texte assez court ne comprend qu'une dizaine de pages et qui se termine d'ailleurs par des précisions chiffrées sur les fortifications de Vienne, n'est-ce pas, comme on lui avait demandé de le faire, les bastions, les fossés, la distance par rapport au Danube, etc., toutes choses utiles à connaître. Or, ce texte, aussi succinct soit-il, aussi sec soit-il, est une pierre blanche dans l'histoire de la diplomatie ottomane, parce que c'est la première relation d'ambassade qui a été conservée. Or, ces relations d'ambassade, ces Sefaret Name, vont, à partir de cette date, se poursuivre tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et c'est évidemment un trésor littéraire et documentaire intéressant de consulter ces relations qui ont été laissées à partir de cette date par les différents ambassadeurs ottomans dans les pays variés où ils étaient envoyés. Certaines de ces Sefaret Name, de ces récits d'ambassade, certains ont été publiés, mais beaucoup restent inédits à ce jour. C'est donc un nouvel usage et, sur ce point, une nouveauté supplémentaire de l'ambassade de ce Kara Mehmed à Vienne que ces relations d'ambassade qui voient désormais le jour. Ça ne veut pas dire, évidemment, que les ambassadeurs antérieurs n'avaient jamais rien écrit. Et on conserve, au contraire, notamment, tout particulièrement, dans les archives du palais de Topkapı, un certain nombre de lettres, de rapports, d'ailleurs pas toujours facilement identifiables, qui sont des correspondances que les ambassadeurs envoyés dans différents pays adressaient au sultan ou à son entourage. Mais, bien entendu, ces notes, ces lettres ne sont pas aussi construites, aussi récapitulatives que le sont les Sefaret Name qui voient désormais le jour. Alors, parmi les documents qui correspondent à ce que je viens de dire, à ces correspondances ponctuelles d'ambassadeurs avec le sultan, je citerai par exemple un document conservé à Topkapı qui est le rapport d'un certain Hadji Zaganos envoyé en ambassade auprès d'un roi d'Autriche, Nemtchek Rale, au milieu du XVe siècle. De même, à l'époque de Mehmed II, on constate qu'un rapport est adressé au fils de Mehmed II, Bayezid, qui n'est encore que prince et gouverneur d'Amasya, donc un rapport adressé par un certain Tadjeddin qui a été envoyé comme ambassadeur auprès du souverain de la confrérie turkmène des Akkoyunlu, des moutons blancs, Akkoyunlu Uzun Hasan. Ce texte est conservé également dans les archives du palais de Topkapı. De même encore, au cours de cette affaire que l'on désigne comme l'affaire Cem, c'est-à-dire la captivité en Europe du frère du sultan Bayezid II, du frère et du concurrent potentiel du sultan Bayezid II, eh bien, on voit un certain nombre des agents de Bayezid II envoyer à leur maître des renseignements, ce qu'ils ont pu apprendre sur la situation de Cem en Europe. Je vous citerai encore le cas assez inattendu qui a été mis en évidence récemment par un jeune collègue italien qui travaille aux États-Unis, Giancarlo Casale, qui a analysé le rapport d'un envoyé de Soliman à Sumatra, un certain Lutfi, qui accomplit une mission importante entre 1563 et 1566, et à travers une lettre qui se présente comme une lettre du sultan d'Aceh, au nord de Sumatra, adressée à Soliman, l'auteur de cette étude à laquelle je fais allusion, a considéré que cette lettre avait en fait été rédigée par cet ambassadeur, Lutfi, et comportait le récit de sa mission par ce Lutfi. Donc, ces quelques exemples sont destinés à souligner le fait que les ambassadeurs envoyés antérieurement ne restaient pas nécessairement muets et pouvaient, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre, communiquer les informations qu'ils avaient recueillies à leur maître. Mais, encore une fois, il ne s'agissait pas ces relations d'ambassade, à proprement parler, de ces séfaretnamés que nous voyons apparaître désormais. Et ces relations d'ambassade, on peut, dans une certaine mesure, jusqu'à un certain point, les comparer avec une pratique qui était très ancienne dans le cas de la diplomatie vénitienne, l'usage qui voulait que tout ambassadeur de Venise, à son retour de mission, fasse oralement au Sénat de Venise, en présence du doge de Venise, rapport sur l'ambassade qu'il venait d'accomplir. Et nous savons qu'à partir de 1524, ces exposés, qui étaient donc à l'origine des exposés oraux, les ambassadeurs ont eu l'obligation de les mettre par écrit. Et il s'agissait de textes destinés à l'administration vénitienne, même au gouvernement de Venise, mais en même temps, ces textes circulaient et on les retrouvait copiés par un certain nombre grands personnages. Eh bien, dans le cas des séfaretnamés, des relations d'ambassade ottomane, il n'est pas question de les lire en public, de même qu'il n'est pas question de Sénat dans l'Empire ottoman. Il s'agit simplement de textes qui sont rédigés à l'intention du sultan et du grand vizir, mais dont on voit que, un peu à la manière des relations vénitiennes, ces textes ne restaient pas enfermés dans les arcanes du palais, mais circulaient, étaient en particulier recopiés par des chroniqueurs dans leurs chroniques, soit intégralement, soit sous une forme abrégée. C'est ainsi que la relation d'ambassade de Kara Mehmed, la première du genre, nous la retrouvons en partie chez un chroniqueur ottoman de l'époque, Rachid, et elle sera reproduite aussi, cette fois intégralement, par un autre chroniqueur, Fındıklılı Szilárd. Et c'est cette diffusion de ces relations atteste de l'intérêt qu'elle pouvait susciter. D'ailleurs, la relation de Kara Mehmed fera tout de suite l'objet d'une traduction latine, copia relationis magni legati ottomanici, mais Mehmed passa. Et on peut supposer d'ailleurs que cette traduction latine à laquelle je viens de faire allusion était une traduction officielle ordonnée par le gouvernement lui-même, le gouvernement ottoman lui-même, à l'intention du gouvernement autrichien. En effet, on constate que dans la traduction latine, contrairement à l'original ottoman, on a supprimé tout ce qui pouvait y avoir de désobligeant pour les Autrichiens. On n'a pas cru devoir traduire en latin les expressions du genre Cufari Axar, les villes mécréants, n'est-ce pas, qui étaient employées dans la version ottomane pour désigner les Autrichiens. De même, on n'a pas repris une autre expression désobligeante, l'expression de Aini Battellare, usage faux, usage absurde, qui servait à désigner les croyances religieuses des mécréants autrichiens. De même encore, on a omis dans la traduction latine les précisions que l'original ottoman donnait sur les mensurations des fortifications de Vienne. D'autre part, on a conservé dans les archives viennoises une longue relation, beaucoup plus longue, en italien, de cette ambassade, une relation qui a été rédigée par un interprète d'origine lorraine, qui passera ensuite au service de la Pologne et qui est bien connu des orientalistes, François de Ménien-Meninski, Meninski, forme polonisée de son nom, qui est bien connu des orientalistes pour son célèbre dictionnaire de l'arabe. Eh bien, à cette époque, Meninski est le principal interprète de l'empereur Léopold et il rédige donc une relation en italien, comme je vous le disais, qui est destiné à faire le point sur ce qui s'est passé, sur la manière dont a été reçu l'ambassadeur. Elle s'intitule « Relazione de ciò che è passato », voyez, de ce qui s'est passé, « circa l'ambasciata solenne turchesca nel anno 1665 e 66 ». Et donc, elle est conservée dans les archives de Vienne et elle était destinée probablement à servir de modèle pour les ambassades futures pour établir la manière dont, à l'avenir, on devrait recevoir les ambassadeurs du sultan qui se présenteraient. Alors, simultanément, donc, à l'ambassade de Kara Mehmed, comme je vous l'ai dit, une ambassade autrichienne devait se rendre à Istanbul et les deux cortèges devaient se croiser en route à un endroit fixé sur le Danube et tout un cérémonial avec en particulier des parades militaires de part et d'autre avait été prévu pour cette rencontre, ce croisement solennel entre les deux ambassades allant en sens contraire. Si on analyse rapidement le texte de Kara Mehmed, le Sefaret Nameh de Kara Mehmed, on ne peut s'empêcher de constater qu'il y apparaît comme fort peu diplomate au sens habituel de ce terme. Il est au contraire extrêmement soucieux, non sans obstination, non sans arrogance, d'affirmer la supériorité de son maître. Peut-être d'ailleurs exagère-t-il dans son texte destiné au sultan le souci avec lequel il a eu soin de préserver l'honneur de son maître. C'est ainsi, par exemple, que tout au long de la traversée du territoire ottoman, puis du territoire autrichien, l'ambassadeur est avancé, bannière au vent et au son des trompettes et des timbales qui avaient l'ordre, n'est-ce pas, de ne jamais s'interrompre. Quand le convoi finit par arriver tout près de Vienne, à Schwerath, les Autrichiens leur demandent de cesser ce tintamarre, n'est-ce pas, et de replier leurs étendards. Les Autrichiens font valoir que dans le passé, aucune délégation ottomane n'est jamais entrée de façon aussi retentissante dans Vienne. L'ambassadeur s'y refuse absolument. Il répond, et c'est lui, n'est-ce pas, qui rapporte tout cela dans son texte, que le sultan lui a remis des étendards et des trompettes afin qu'ils ouvrent le convoi de l'ambassade envoyé à Vienne pour apporter la paix et l'amitié. Et s'ils n'étaient pas autorisés à manifester, comme ils avaient coutume de le faire, la paix et l'amitié à la manière ottomane, où donc était passée cette paix et cette amitié? Et il rapporte avec la plus vive satisfaction qu'ils sont entrés finalement dans Vienne comme ils l'avaient souhaité, car, dit-il, il était hors de question qu'ils y entrent autrement. Une fois à Vienne, le chancelier vient à leur rencontre avec un corps d'armée prêt pour la parade. Le chancelier remet à l'ambassadeur, comme présent de l'empereur, un cheval avec sa selle et les deux personnages, le chancelier et l'ambassadeur, échangent des compliments. Puis, l'ambassadeur et sa suite sont conduits en grande pompe à leur résidence, une résidence qui est, nous dit Kara Mehmed, au centre de Vienne. Après 10 jours, l'ambassadeur est reçu par l'empereur et les lettres officielles sont échangées et les cadeaux sont remis. Et l'ambassadeur souligne que durant toute l'audience, les membres de son ambassade étaient restés, écrit-il, à la hauteur de la tête de l'empereur. C'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas inclinés, ils n'avaient pas baisé le sol. Mais il observe aussi que l'empereur les a fait rester debout pendant 1 heure. Après l'audience, donc, l'ambassadeur restera, comme je vous l'ai dit, pendant 9 mois à Vienne. Chaque semaine, outre l'indemnité journalière que j'ai mentionnée, l'ambassade reçoit des fruits et des douceurs de la part de l'empereur et du chancelier. Et on constate que les membres de l'ambassade ne sont pas restreints dans leurs mouvements. Ils se promènent dans Vienne, ils visitent les palais et les jardins de l'empereur, et ils vont même dans les environs. Ils vont par exemple jusqu'à la forteresse de Neuhäusel, et l'ambassadeur prend bien soin de doter toutes les distances dans son récit. Il se rend même en excursion à Bratislava, à Presbourg, où il est reçu par le commandant de la forteresse. Et là encore, il a pris des notes sur la distance entre les deux rives du Danube à cet endroit, sur la distance entre la forteresse et le fleuve, etc. Et puis, Nous arrivons à la fin de ce séjour. L'ambassadeur reçoit son audience de congé juste au moment où son collègue qui revient d'Istanbul est à la hauteur d'Estergom sur le Danube. Et donc, ils se rencontreront de nouveau au retour, l'ambassadeur redescendant le Danube dans un convoi de 32 bateaux. Et lorsqu'il se croise, donc une nouvelle fois avec son collègue qui revient d'Istanbul, il y a de nouveau parade militaire, échange de compliments, et c'est la fin de cette ambassade. Cette ambassade, elle est mémorable. C'est la grande ambassade de Kara Mehmed pour les raisons que je vous ai déjà citées, mais pour une autre raison encore. C'est que si Kara Mehmed a rédigé ce petit Sefaretname, il y avait dans sa suite un autre personnage qui lui a relaté de façon beaucoup plus développée et dans un style tout à fait différent la même mission. Un personnage qui est bien connu dans la littérature ottomane, où il occupe une place à part, tout à fait singulière. Je veux parler d'Evliyat Çelebi, l'auteur des fameux Seyahat Name, du livre ou des livres des voyages. Eh bien, dans son Seyahat Name, au tome 7, dans le volume 7, Evliyat Çelebi raconte à sa manière ce qu'a été l'ambassade de Kara Mehmed à Vienne. Il prétend en effet qu'il faisait partie de cette ambassade, et voici d'ailleurs comment, au début de son texte, il relate l'entretien entre le grand vizir Köprülü Fazıl Ahmed Paşa et Kara Mehmed, lorsque ce dernier est désigné pour accomplir cette ambassade. Le grand vizir lui dit, donc à Kara Mehmed, n'est-ce pas, et c'est Evliyat Çelebi qui nous rapporte l'entretien. Il lui dit, tu proviens du corps des gardes du palais. En effet, il faisait partie, comme je vous l'ai dit, des Müteferrika. Et tu ne connais donc rien à la situation de la frontière germanique. Or, il se trouve, poursuit le grand vizir, que nous disposons d'un grand voyageur qui est aussi un compagnon sans égal, un certain Evliya, c'est Evliya qui raconte, n'est-ce pas, attaché à Melek Ahmed Paşa. En effet, Evliya Çelebi avait été un proche de cet homme d'État ottoman, Melek Ahmed Paşa, qui a été grand vizir pendant d'ailleurs un temps bref, une année, d'août 1650 à août 1651. Et le grand vizir donc continue, poursuit en disant à Kara Mehmed, prends-le avec toi, n'est-ce pas, prends Evliya avec toi, car l'homme est très au courant de toutes les circonstances de la frontière. Et le même jour, nous dit-on encore dans ce récit, le grand vizir fait venir Evliya lui-même et lui déclare, mon cher Evliya, aujourd'hui est un grand jour pour toi, car tu accompagnes le Pacha envoyé comme ambassadeur auprès de l'empereur des Allemands. Occupe-toi immédiatement de tes préparatifs. Alors cet échange, ces deux échanges que je viens de vous lire et de vous traduire, inutile de vous dire que leur authenticité a été mise en doute par les commentateurs et qu'on a vu là une des fanfaronnades habituelles du bon Evliya Çelebi. Et plus que cela, on a mis en doute le fait qu'Evliya soit jamais allé à Vienne et on a mis en doute qu'il ait effectivement accompagné l'ambassadeur là-bas. Et il faut dire qu'il y a dans le récit d'Evliya Çelebi tant d'éléments fantaisistes, quelquefois fantastiques. D'ailleurs, pour lui, il ne s'agit pas d'un voyage à Vienne, il s'agit d'un voyage au pays de la pomme d'or, de Vienne, Bech Kösel Elmasse, c'est-à-dire qu'il mêle son récit à tradition de la pomme d'or, si importante, n'est-ce pas, dans l'idéologie de conquête ottomane, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion d'exposer ici il y a deux ans, et donc je ne reviens pas là-dessus, mais tout ce qui entoure, n'est-ce pas, le récit d'Evliya Çelebi était tel qu'on a considéré longtemps qu'il s'agissait d'une œuvre d'imagination, même si l'auteur y avait inséré, malgré tout, assez souvent, des informations exactes, précises, mais dont on pouvait imaginer qu'il les avait recueillies auprès d'intermédiaires, sans avoir été lui-même un témoin direct. Et un grand orientaliste autrichien, Richard Kreutel, qui a traduit en allemand le récit d'Evliya Çelebi à Vienne, et qui a publié cette traduction en 1963, faisait partie des gens persuadés que Evliya Çelebi n'était jamais allé à Vienne. Or, il se trouve que plus récemment, un autre auteur autrichien, Karl Tepli, a découvert dans les archives de Vienne un document qui laisse penser, qui laisse sérieusement penser que tout n'est pas faux dans ce que raconte Evliya Çelebi et qu'il faisait effectivement partie de la suite de Kara Mehmed à Vienne. Alors Karl Tepli a exposé sa découverte dans un article paru dans la revue Der Islam en 1975. En effet, dans une de ces listes auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, des membres de la suite de Kara Mehmed, une liste conservée dans les Reichsakten de la Hofkammer Archive de Vienne, on voit que figure un certain Evliya Efendi, accompagné d'un serviteur et de trois chevaux. Et il n'est pas du tout invraisemblable qu'il s'agisse de notre Evliya Çelebi. Et donc, Evliya Çelebi serait bel et bien allé à Vienne avec l'ambassadeur. Quoi qu'il en soit, sa relation est beaucoup plus intéressante à bien des égards que le Sepharet Nameh officiel de Kara Mehmed. Même si elle est, comme toujours avec cet auteur, pleine d'ambiguïté, puisque, je vous en donnerai quelques exemples, il commence par donner des informations qui sont tout à fait véridiques, tout à fait exactes, et puis ça dérape. Et ça dérape de plus en plus, et on passe dans un monde tout à fait fantaisiste, avec certainement des intentions ironiques, des intentions satiriques, qu'il est d'ailleurs pas toujours facile de découvrir totalement. Et ce mélange entre du sérieux et du pas sérieux est quand même un caractère distinctif de cette relation du séjour à Vienne par rapport à d'autres passages d'Evliya Çelebi ayant trait à d'autres pays d'Europe centrale ou d'Europe du Nord-Ouest, où là le lien avec la réalité devient tout à fait problématique. C'est le cas en particulier dans tome 6 de ses récits de voyage, où il parle de pays qu'on a beaucoup de mal à identifier, où il cite des toponymes dont on ne voit vraiment pas à quoi ils peuvent correspondre. Et si on prend par exemple le cas de ce qu'il dit de la Hollande, dans le volume 6 donc de son récit de voyage. Bon, la Hollande est un pays qui n'est pas inconnu aux Ottomans, ne serait-ce que parce que il y avait surtout au XVIIe siècle un nombre important de marchands hollandais à Istanbul et dans d'autres ports ottomans. Or, il est très difficile de s'y retrouver dans ce qu'écrit Evliya Çelebi. Il parle par exemple d'Amsterdam, mais il ne mentionne absolument pas les canaux ou les multiples rivières, n'est-ce pas, qui sillonnent Amsterdam. Et il parle en revanche, pour Amsterdam, des coupoles du Palais Royal. Et il dit que, bon, bien sûr, il y a Amsterdam, qui est la ville la plus importante, mais il y a un autre port très important aux Pays-Bas. Il donne le nom de ce port, Carush, et on ne voit vraiment pas à quoi ça correspond. Je fais allusion à ce qu'il dit des Pays-Bas, parce que justement, ce qu'il dit sur Vienne est quand même très différent, est quand même beaucoup plus solide et beaucoup plus exact dans bien des parties. Alors, je ne vais pas analyser, même si ce serait intéressant de le faire, parce qu'il y a des morceaux de bravoure assez étonnants, la relation que donne Evliya Çelebi de Vienne et de l'Autriche. Ce que je voudrais faire, dans l'optique qui est la mienne, c'est-à-dire en restant fidèle à mon sujet, les ambassades ottomanes en Europe, c'est de prendre le récit d'Evliya Çelebi comme un récit d'ambassade. Ce caractère qu'il a quand même pour une large part, dans la mesure, par exemple, où, ainsi que nous allons le voir, il donne une grande place aux questions de protocole et à la manière dont l'ambassadeur ottoman est reçu, se comporte, etc. Alors bien sûr, ce n'est pas un Sepharet-Name comme celui de Kara Mehmed ou comme seront les Sepharet-Name des ambassadeurs ultérieurs des 18e et 19e siècles. C'est beaucoup moins sérieux, c'est beaucoup plus fantaisiste, mais c'est aussi beaucoup plus anticipateur. Parce que Evliya Çelebi parle non seulement des gouvernants, des rites diplomatiques, du protocole, mais il parle aussi de la ville, des Viennois. Il a un souci que n'auront que plus tard les auteurs des Sepharet-Name, c'est-à-dire de faire de leur récit d'ambassade un compte-rendu, au moins dans une certaine mesure, sur le pays qu'ils ont été amenés à visiter et à découvrir. Et Evliya Çelebi se permet une chose que les auteurs des Sepharet-Name mettront beaucoup de temps à se permettre, que, à vrai dire, ils ne se permettront pas avant le XIXe siècle. C'est-à-dire de faire un comparatisme explicite entre ce qu'ils voient dans le pays qu'ils visitent et ce qui se passe dans leur propre pays, dans l'Empire ottoman. Que dit donc Evliya Çelebi, pour commencer, du protocole, des usages diplomatiques et notamment de la façon dont se passent à Vienne les auteurs des ambassadeurs? Eh bien, il présente les choses d'une manière satirique, d'une manière burlesque, qui est une espèce de réponse, d'une certaine manière, à ce que fait à peu près à la même époque, de l'autre côté, du côté européen, Molière dans Le Bourgeois Gentilhomme, dans le final du Bourgeois Gentilhomme. Bon, on tourne à la dérision, au burlesque, les usages de l'autre, en forçant le trait, en le caricaturant. Ce que Molière fait dans son final turc, eh bien, d'une certaine manière, Evliya Çelebi le fait lorsqu'il décrit la réception de l'ambassadeur turc par l'empereur, ou lorsqu'il décrit l'empereur lui-même, sa façon d'être et son accoutrement.
Avec Gilles Weinstein. Réalisation Thomas Duterr. Présentation Christine Goémé.
Contre le sida le 1er décembre, dans Sur les docks, 5 documentaires pour aborder différents aspects de la maladie. Compagnons de lutte contre le sida, France et Mali, avoir aujourd'hui 18 ans et vivre avec le VIH, des parents séropositifs et des bébés sans virus, la guerre intime du sida, enfin également soulever la question de la pénalisation de la transmission. Du 26 au 30 novembre, 5 documentaires pour aborder cette maladie sous différents aspects, dans Sur les docks, chaque jour à 16h.
Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la fabrique de l'histoire par Emmanuel Laurentin. Cette semaine, histoire de Strasbourg et grand témoin Bernard Fred, comédien, bilingue franco-allemand, originaire de Strasbourg. 10h, les humanités, aujourd'hui les lundis de l'histoire par Michel Perrault. La justice enquête à propos de justice et déviance à l'époque contemporaine. L'imaginaire, l'enquête et le scandale de Frédéric Chauveau. Et l'enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle de Dominique Khalifa, une émission en compagnie des deux auteurs. 11h, question d'époque par Xavier Delaporte. Le lundi, l'économie en question avec ce point d'interrogation, la France dans l'impasse, en compagnie de Michel Pébreau, président du conseil d'administration de BNP Paribas. Et tout de suite, les matins de France Culture avec Ali Patou.
Bonjour à tous et bon réveil. 6h59, ce lundi 26 novembre 2007. Bienvenue dans les matins de France Culture. Un mot sur le programme de l'émission. L'invité ce matin à 8h20 sera l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. Il viendra nous parler du livre qu'il publie ces jours-ci sous ce titre « Pour une union occidentale entre l'Europe et les États-Unis ». Un essai qui cherche à imaginer une nouvelle politique entre les deux rives de l'Atlantique. « Il est grand temps, écrit Édouard Balladur, de prendre conscience de tout ce qui unit l'Europe et les États-Unis dans leurs traditions, leurs cultures, leurs idéaux ». L'objectif, il s'agit d'inventer de nouvelles relations politiques, économiques ou encore stratégiques. Une association d'un nouveau genre dont on débattra tout à l'heure en sa compagnie. Très nombreuses questions au sommaire de notre entretien également sur la situation économique et sociale en France. Internationale évidemment au moment où démarre la conférence d'Annapolis et où se poursuit le voyage de Nicolas Sarkozy en Chine. À 7h15, l'Australie dans les enjeux internationaux. 7h25, carte blanche à Corinne Lepage. Il est 7h.
«
7h, le journal de Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Ali et bonjour à tous. Deux jeunes en moto percutés par une voiture de police, deux adolescents qui succombent à leurs blessures, la fièvre qui s'empare de Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise, violences et échauffourées, nous venons dans un instant sur ces violences et les tensions dans cette ville de la banlieue nord de Paris. L'actualité en France, l'égalité salariale homme-femme au menu de la conférence sociale du jour au ministère du Travail. Le pouvoir d'achat, on attend les propositions de l'Élysée sur le sujet de préoccupation numéro un des Français. Les étudiants, rien ne va plus entre l'UNEF et la coordination. Et puis bien sûr, à l'étranger, les contrats signés en Chine, les milliards d'euros d'ores et déjà promis à Airbus ou encore Areva, et les perspectives du sommet d'Annapolis, vu ce matin du côté de la Ligue arabe. S'agit-il d'un malheureux accident ou, comme en sont convaincus les jeunes de Villiers-le-Bel, d'une bavure policière aggravée par la non-assistance à personne en danger ? L'enquête devrait le dire, mais pour l'heure, depuis la collision mortelle hier entre une moto portant deux adolescents de 15 et 16 ans et une voiture de police dans cette ville du Val-d'Oise, la tension est à son comble. Convaincus de la culpabilité des policiers, des jeunes en colère ont incendié plus d'une vingtaine de voitures, des garages et magasins, saccagé deux postes de police. 21 policiers ou pompiers auraient par ailleurs été blessés lors d'échauffourées, des violences que condamnent la plupart des jeunes. Mais comme l'explique Slimane, il y a trop de rage accumulée et de méfiance.
Nous ne sommes pas des gens qui faisons du casage, mais les gens en ont marre. On en marre. C'est pas la première fois que ça se produit ça. Montfermeil, aujourd'hui Villiers, demain peut-être Gonesse, Sarcelles, Goussainville, tout ce qui est bougnoul, je dis bien encore une fois, bougnoul et noir, on respecte plus l'homme. On nous traite comme des chiens. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Se faire écraser comme des chiens, ils ont même pas assisté aux personnes en danger. Non, assistance aux personnes en danger par ces officiers-là. Et c'est ça la République. À Monsieur Sarkozy, je lui demande de me donner des explications. Est-ce que c'est ça la République de demain qui nous propose à nous, les enfants d'immigrés, qui sommes français de naissance? Parce que là, c'est un enfant qui est né dans Villiers-le-Bel. Il avait tout l'avenir devant lui. Il avait 15 ans. On lui a enlevé l'avenir.
Les propos recueillis par Franck Matt vont alors. Y a-t-il eu ou non non-assistance à personne en danger? Une enquête est ouverte. Mais la méfiance est telle envers les forces de police que le préfet a dû se déplacer au cœur de la nuit pour convaincre les habitants du quartier de laisser les policiers mener leur enquête. Paul-Henri Trollet, le préfet qui reste prudent sur les circonstances du drame.
D'après les premiers éléments dont je dispose, le véhicule de police ne poursuivait pas ces jeunes. C'est un déplacement qui s'effectuait à faible vitesse, dans des conditions normales, sans gyrophare, sans deux-ton. Une moto montée par deux jeunes gens, 15 et 16 ans, vous le savez, a percuté le véhicule, c'est certain. J'ai entendu parler d'un refus de priorité. C'est une thèse qui est contestée par d'autres, on verra. La violence du choc est attestée par l'état du véhicule. Les deux gamins sont morts assez rapidement et on comprend quand on voit la violence du choc. Je ne sais pas si les policiers n'ont pas donné les premiers secours ou pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La prise à partie a-t-elle été immédiate? Les policiers se sont-ils dérobés, se sont-ils pas dérobés? Écoutez, il y aura une enquête pour ça. Je n'ai pas de raison, a priori et même le contraire, de soupçonner que des policiers n'aient pas porté assistance à une personne en danger.
Le préfet du Val-d'Oise, Paul-Henri Trollet. Alors, on l'entendait dans le reportage de Franck Madvon, ce que souhaitent les habitants du quartier, c'est plus de considération. Ils se sentent délaissés ou traités comme des chiens, disait ce jeune, parce qu'ils habitent en banlieue. Donner plus de considération, un peu plus d'égalité, c'est aussi, et là nous changeons radicalement de plan, c'est aussi ce à quoi vise la conférence sociale de ce lundi. Elle est consacrée aux inégalités professionnelles et salariales entre les hommes et les femmes, écart qui reste élevé en France, autour de 20%. Alors, face à Ségolène Royal, lors de la campagne, Nicolas Sarkozy avait fait de cette égalité l'une de ses promesses phares. L'objectif de la conférence est ambitieux, mettre fin aux inégalités dans les deux ans. Que ressortira-t-il de cette énième rencontre sur le sujet? Difficile à dire, alors que les lois existent, mais ne sont pas appliquées. En tout cas, cette salariée a pris les choses en main. Elle attaque son entreprise au prud'homme, son histoire avec Delphine Simon.
Jusqu'au mois dernier, Dominique Ouvrard travaillait comme attaché commercial pour une société basée à La Rochelle. C'est en parlant de sa retraite qu'elle a comparé son bulletin de salaire avec celui d'un collègue.
Mon brut à moi, c'est son net en fait à lui. Il m'a dit, quand je calcule, ça fait 40% de différence. Bon, moi je veux bien 15%, mais 40%. Ensuite, j'ai appris qu'en 2006, il avait eu 2% d'augmentation et rebelote aussi en 2007. Et moi, rien du tout.
Dominique en parle à son directeur commercial. Il lui répond qu'à son âge, 58 ans, il n'est plus question de réévaluer son salaire. Pourtant, dit-elle, dans cette entreprise d'emballage, ils sont deux à faire le même travail. Son collègue masculin